Rebonjour à tous et à toutes, pardon. Je vous conseille pour l'instant de laisser vos micros fermés, mais dès que vous souhaitez poser une question, évidemment, n'hésitez pas à les rouvrir. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui un texte qui est un texte un peu particulier dans le canon pali, qui est l'un des rares textes qui se présente comme un récit biographique. Il n'y a que deux exemples dans le canon de ce type de récit biographique. Un qui se trouve dans la corbeille des Suttas, qui raconte les dernières semaines de vie du Bouddha. Donc c'est le Parinibbana Sutta. Et puis, le texte qu'on va aborder aujourd'hui, qui va nous servir de base à l'étude de nombreuses choses, c'est un texte qui est tiré de la corbeille du Vinaya. Donc, a priori, le Vinaya ne devrait pas comporter de récits. C'est plutôt un recueil dans lequel on trouve toutes les règles de vie des bhikkhus. Mais il y a une partie là-dedans qui est une partie un peu historique sur l'histoire de la communauté, du Sangha, et comment ce Sangha s'est mis en place. Les différents événements qui ont rythmé son existence, notamment les différents conciles. Et le premier de ces textes historiques raconte comment le Bouddha est parvenu à l'éveil, comment il va accueillir ses premiers disciples. Et il commence donc juste au moment où le Bouddha, après son départ de Kapilavastu, va rencontrer ses premiers maîtres brahmanique, et il se termine avec l'entrée dans le Sangha de ses deux principaux disciples, ses deux meilleurs disciples, que sont Sariputta et Moggallana. Je vais me concentrer essentiellement sur la partie qui se passe à Bénarès, que vous connaissez essentiellement, vous, pour l'enseignement qu'on appelle les quatre nobles vérités. Alors, je ne vous cache pas que, comme bien en bien d'autres occasions, je vais avoir l'occasion de revenir sur l'appellation de quatre nobles vérités que je n'aime pas du tout, personnellement, qui ne me semble pas convenir pour cet enseignement. Cette première partie de l'enseignement à Bénarès est aussi appelée la mise en mouvement ou la mise en branle de la roue de la loi, de la roue du Dhamma, hein, Dhamma ici traduit par la loi. Et généralement, on connaît essentiellement le discours des quatre nobles vérités, mais on ne connaît pas le contexte, ce qui précède et ce qui suit ce discours. En l'occurrence, comment le Bouddha rencontre les cinq ascètes, ce qui va se passer entre eux avant qu'il ne leur donne cet enseignement qu'on appelle les quatre nobles vérités, ce qui suit immédiatement ce discours et ce que ça va entraîner pour les cinq ascètes. Et on ne sait absolument pas, généralement, enfin c'est très rarement évoqué, le fait que le Bouddha va rester plusieurs semaines dans ce parc aux cerfs d'Isipatana à côté de Bénarès, à Sarnath plus précisément, et il va rencontrer un certain nombre d'autres personnes, en plus des 5 à 7, auxquelles il va donner le même type d'enseignement et qui vont devenir eux aussi ses disciples, soit disciples maîtres de maison, soit disciples bhikkhus. Et à la fin de cette période de plusieurs semaines à Bénarès, à Sarnath, le Bouddha va se retrouver entouré de 60 disciples ayant obtenu la libération, le titre, comme lui, d'Arahant. On va dire dans le texte qu'il y a désormais 61 Arahants dans le monde, et le Bouddha les envoie en mission pour répandre sa bonne parole, son enseignement, en leur demandant de ne jamais voyager à deux, mais d'être chacun partir dans toutes les directions afin de répandre son enseignement. Ce que je souhaite avec ce texte-là, c'est déjà vous montrer que le discours des quatre nobles vérités comprend généralement comme un discours théorique, ne doit pas forcément être compris de cette manière-là. Ce qui va importer finalement, ce qui va être visible dans ce texte-là, c'est qu'à l'issue de cet enseignement, chacun de ses disciples va connaître un événement spirituel. Et que donc, cet enseignement n'est pas juste un exposé théorique, c'est un exposé, c'est pas un exposé qui informe sur quelque chose qu'il faudrait savoir, c'est pas un discours informatif, mais c'est un discours qui va provoquer une transformation chez ses auditeurs, ce qu'on appelle un discours performatif. Pas informatif qui donne un savoir, mais performatif qui provoque une transformation. Et on va assister, selon les personnages auxquels le Bouddha s'adresse, à deux types de décisions qui vont suivre cette transformation. Il y a trois personnages qui vont décider de prendre refuge dans le Bouddha, le Dhamma, le Sangha, et devenir ce qu'on appelle dans la tradition des Upasaka, Upasika au féminin, Upasaka au masculin, et les 60 autres vont décider de devenir des bhikkhus. Et à ces bhikkhus, le Bouddha va prolonger son enseignement, va donner d'autres enseignements, et ces 60 bhikkhus vont devenir des arahants. Tous ces personnages qu'il rencontre, il ne va pas leur exposer directement ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Il y a toujours un moment de préparation, une sorte d'introduction. Il y a une introduction un peu développée lorsqu'il s'agit des 5 ascètes, les 5 personnages qu'il avait déjà accompagnés depuis plusieurs années en suivant l'enseignement d'un maître brahmanique, puis lorsqu'il s'était isolé pour pratiquer l'ascèse extrême, dont il s'était séparé ensuite pour aller à Bodh Gaya et connaître l'éveil. Donc ce sont des personnages qui ont suivi un parcours assez semblable au sien. Mais néanmoins, il va trouver nécessaire de les mettre dans un certain état d'esprit avant de leur adresser ce discours des quatre nobles vérités. Et il en va de même pour tous les autres personnages qui ne sont pas des ascètes, mais qui sont des maîtres de maison. Il va y avoir une introduction, un cheminement particulier, un enseignement particulier qu'on appelle l'enseignement graduel, qui va leur permettre, comme finalement les 5 ascètes, d'être dans le bon état d'esprit pour écouter cet enseignement sur les quatre vérités. Ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, c'est que ça nous donne une sorte de schéma qu'on va retrouver dans de très nombreux autres textes du canon, qui montrent que même si le Bouddha, régulièrement dans les textes, nous dit « je n'enseigne qu'une seule chose », c'est dukkha, son origine, sa cessation et le chemin qui mène à sa cessation, que cet enseignement est considéré comme l'enseignement spécifique au Bouddha, il y a d'abord un travail de préparation à accomplir. Il y a un certain cheminement intellectuel ou spirituel à faire avant d'être en capacité d'entendre ce discours. Être en capacité d'être transformé par ce discours. Et une fois que se sera produit cette transformation, d'autres enseignements vont permettre de prolonger cette transformation jusqu'à la libération. Alors, cette transformation très précise qui a lieu à l'issue des quatre nobles vérités, c'est ce qu'on appelle l'entrée dans le courant ou l'ouverture de l'œil du Dhamma. C'est quelque chose d'extrêmement important puisque lors de cet événement-là, vous entrez dans ce qu'on appelle la communauté des nobles. Vous passez du statut de personne ordinaire au statut de noble, Arya. Donc ça, c'est le cadre un petit peu, si vous voulez, général de ce texte. Je vous montrerai tout à l'heure un résumé. Pourquoi j'ai souhaité travailler sur ce texte et qu'est-ce que je vous propose à partir de ce texte? Parce que ce texte va être un point de départ. D'une part, c'est d'essayer de comprendre quelle est la méthode du Bouddha, quel est le cheminement, quelles sont les étapes. Je ne souhaite pas le faire de façon théorique, je ne souhaite pas le faire de façon dogmatique, en quelque sorte. Ce qui m'intéresse, c'est que vous cheminiez dans votre pensée, comme j'ai pu cheminer moi-même dans la mienne, de savoir finalement par rapport à ce schéma, où est-ce que chacun de nous se situe? Est-ce que nous sommes, selon ces textes, en capacité d'être transformés par cet enseignement central du Bouddha, que sont les quatre nobles vérités? Et qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur justement ce que cela va provoquer? Comment ça va se produire? Donc on reviendra bien évidemment, sans doute pas cette séance-ci, mais une autre séance sur le contenu des quatre nobles vérités. Mais il y a une question qui est souvent posée chez les chercheurs, chez les savants, etc., pour savoir justement si les quatre nobles vérités sont importantes pour leur contenu ou importantes pour leur structure. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la formule brève de ce discours, hein, c'est l'enseignement sur Dukkha, son origine, sa cessation et le chemin qui mène à sa cessation. Donc, a priori, on a toujours étudié ce texte-là pour voir Dukkha. Qu'est-ce que c'est que Dukkha? Comment ça naît? Comment ça disparaît? Et comment on y met fin? Mais dans d'autres endroits, dans d'autres textes, dans d'autres suttas, le Bouddha dit qu'il n'enseigne qu'une seule chose, c'est le moi, son origine, sa cessation et le chemin qui mène à cessation. Ou le monde, l'origine du monde, la cessation du monde et le chemin qui mène à la cessation du monde. Donc, est-ce qu'il faut voir ce texte-là en disant finalement Dukkha, le moi, le monde, c'est la même chose? Ou est-ce que finalement le terme qui est mis en avant, est-ce qu'il est réellement important? Ou ce qui est le plus important, ça ne serait pas la démarche. Première noble vérité, deuxième noble vérité, troisième noble vérité, c'est-à-dire exposer quelque chose, son origine, sa cessation et le chemin. Et là, effectivement, le texte même du cycle de Bénarès peut nous laisser penser finalement que ce n'est pas Dukkha qui est le plus important, mais que c'est la structure même du texte. On va revoir tout à l'heure de façon plus précise le texte, mais quand la personne qui entend cet enseignement est transformée par cet enseignement, elle a fait une proclamation. La proclamation qui correspond à ce qu'on appelle l'entrée dans le courant. Et cette proclamation, c'est de dire, tout ce qui apparaît disparaît. C'est-à-dire le contenu de la deuxième et de la troisième des vérités. Ce n'est pas une réflexion qui est liée à Dukkha. C'est une réflexion qui est liée à apparition et disparition. La même formule sera utilisée dans tout le texte. On la retrouve un petit peu différemment à un autre moment, donc c'est à la toute fin de ce cycle, lorsque Sariputta va rencontrer l'enseignement du Bouddha, en l'occurrence, pas près de Bénarès, mais dans la capitale de l'empire du Magadha, qui s'appelle Rajagriha, et il va rencontrer l'un des cinq ascètes. Et en voyant ce personnage, il va être frappé par l'aura, en quelque sorte, qui émane de ce personnage. Et lui qui est en recherche, comme son ami Moggallana, ils viennent de se séparer d'un maître et de se promettre l'un l'autre qu'ils allaient à la recherche d'un maître meilleur et que le premier des deux qui aurait trouvé viendrait retrouver l'autre pour lui dire qui il avait trouvé. Et donc, Sariputta rencontre un de ses ascètes qui s'appelle Asajji. Et il lui demande de lui donner un résumé de l'enseignement du Bouddha. Et Asaji, finalement, donne une formulation qui est proche de celle qu'on va trouver dans tout le cycle de Bénarès, donc tout ce qui apparaît est soumis à la disparition, mais dans une formulation légèrement différente. Alors, je vais m'excuser parce que je ne l'ai pas relevé, il faut que je la retrouve. Je vais y arriver, excusez-moi. La formulation est assez importante, donc je voudrais vraiment retrouver. Donc là, c'est une traduction faite par André Barraud, mais voilà. Des choses qui ont pour origine une cause, le Tathagata dit la cause. De ce qui est leur cessation, le grand religieux en parle, le grand ascète en parle. Donc il s'agit bien, là encore, de l'idée d'une apparition et d'une disparition, mais va se rajouter un élément très important, c'est l'idée de la cause. Et on a ici en fait l'embryon d'une notion capitale de l'enseignement bouddhique que vous connaissez certainement sous un nom un peu compliqué. Bon, vous avez tous vos micros ouverts, mais si vous aviez été en face de moi, j'aurais attendu, attendu l'expression de coproduction conditionnelle. Donc cette expression en fait des disciples du Bouddha, même si elle semble ne porter que sur ce qu'on appelle l'impermanence, en fait, elle porte en sous-entendu la production en condition, ce qu'on appelle le conditionnement, la production conditionnée. Donc peut-être que ces quatre nobles vérités, ça n'est pas un enseignement sur dukkha, mais c'est un enseignement sur la coproduction conditionnée. Et c'est ce qui va, en fait, produire cette transformation chez les auditeurs, chez les disciples, du Bouddha, quand ils vont entendre au sens le plus fort du terme, lorsqu'ils vont comprendre, lorsqu'ils vont, d'une certaine manière, à l'audition de cet enseignement, faire l'expérience de ce conditionnement, du fait que rien n'apparaît sans cause et que le fait que les choses soient causées font qu'elles disparaissent. Et c'est ça qui va provoquer une transformation dans l'esprit des gens. Mais clairement, ce texte nous dit que pour être transformé par cet enseignement, pour être capable d'expérimenter cet enseignement, il faut que l'esprit soit préparé. Vous savez sans doute, on dit souvent que le Bouddha enseigne un enseignement, enfin c'est lui-même qui le déclare, son enseignement est à contre-courant. Est à contre-courant de l'expérience ordinaire des gens. Alors, là encore, est-ce que justement cet enseignement qu'il va être délivré, que ce soit aux ascètes ou que ce soit aux maîtres de maison, ça n'est pas un enseignement qui va permettre ce que j'ai appelé l'enseignement préparatoire, l'introduction aux quatre nobles vérités, est-ce que cet enseignement-là n'est pas là pour nous permettre de prendre conscience que nous sommes dans un courant, celui du samsara, auquel il faut échapper. Et quand on a pris conscience qu'on était entraîné dans ce mauvais courant, l'audition de cet enseignement-là nous fait entrer dans un autre courant. On l'appelle l'entrée dans le courant. Et le Bouddha, il y a plusieurs textes où le Bouddha, effectivement, fait cette image, joue avec cette image, compare son enseignement à une remontée du courant ou à aller à contre-courant. Nous sommes dans le courant du samsara, mais il faut déjà que nous ayons conscience de ce que c'est que ce courant du samsara. Une fois qu'on a compris quelles étaient les caractéristiques de ce courant-là, leurs désavantages, à ce moment-là, on peut être prêt à s'engager sur une voie à contre-courant, sur une façon de comprendre les choses, de voir les choses, de vivre les choses, qui sera différente de celle à laquelle on était habitué, dans laquelle on se laissait entraîner par le courant. Donc finalement, ce texte-là, je voudrais rentrer dans un certain nombre de détails, certains épisodes, certaines formulations, le mettre en parallèle avec d'autres suttas, d'autres épisodes, pour essayer de voir quelle est la cohérence de ce cheminement qui nous est proposé? Pour essayer d'entrer de façon plus simple, enfin plus simple, pour essayer de voir ce qu'un texte qui est considéré vraiment comme le cœur de l'expérience bouddhique, puisque c'est la première fois que des disciples deviennent, que des personnes deviennent disciples, deviennent des entrées dans le courant, deviennent des arhats, on a une formule, on a une méthode, on a des étapes qui sont mises en évidence et voir comment on peut, pour nous, les mettre en pratique, nous situer par rapport à cela et voir qu'est-ce que ça veut dire. Bon, je vais vous présenter, je vous enverrai le texte tout à l'heure, je vais essayer de le mettre en partage d'écran, le texte résumé. Non, excusez-moi, la technique a ses inconvénients aussi. Donc, j'espère que ça va être bon. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez?
Oui.
Alors, je grossirai au fur et à mesure. Là, pour l'instant, je le mets en général. Donc, voilà. Ce cycle de Bénarès commence par la rencontre et l'enseignement aux 5 à 7. Ensuite, rencontre et enseignement à Yassa. Yassa, c'est un fils. Alors, de bonne famille, c'est l'expression qui est employée dans le texte. Donc, un personnage qui fait partie de l'élite de Bénarès. Il y a un épisode, il quitte son foyer et son épouse et se rend au parc Auxerre, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, comme il a quitté son domicile familial, c'est son père qui va partir à sa recherche. Le père va rencontrer le Bouddha. Il va aussi recevoir un enseignement. Puis, le Bouddha va être invité chez le père de Yassa. Il va rencontrer la mère et la femme de Yassa, auxquelles il va aussi donner un enseignement. Puis, 4 des compagnons de Yassa de bonne famille et 50 amis d'un petit peu tous les milieux vont apprendre que Yassa est devenu un compagnon du Bouddha et vont à leur tour se rendre au parc Auxerre et recevoir d'abord les 4, puis les 50, un enseignement. Donc, tous ces personnages-là, à l'exception du père, de la mère et de la femme de Yassa, vont devenir des bhikkhus. Le père, la mère et la femme de Yassa vont devenir ce qu'on appelle donc des upasaka. Upasaka, c'est pour les hommes, et upasika, c'est pour les femmes. Je vous parlais de l'introduction à l'enseignement des 4 vérités. Donc là, je les ai appelés les 4 aspects de la réalité selon les nobles. Je vous expliquerai pourquoi. Vis-à-vis des ascètes, il y a 2 épisodes, en fait. Il y a d'abord la rencontre, que j'appelle l'accueil rétif des 5 ascètes, et le Bouddha qui les convainc d'écouter son enseignement. Puis, il y a une introduction qui présente ce qu'on a appelé la voie du milieu. Et cette voie du milieu, en fait, ça correspond à l'octuple sentier des nobles. Ça, c'est pour les ascètes. Il y a besoin de les convaincre d'abord, et ensuite, il y a besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est que la voie du milieu. On aura l'occasion de revoir quand on étudiera cette partie du texte plus précisément. Ce qui est étonnant, c'est que l'octuple sentier des nobles, il est expliqué à la fois dans cette introduction et il réapparaît comme la 4e partie du discours principal. Pourquoi il y a ce doublé? Qu'est-ce que ça va nous apprendre? Donc là, ces personnages, ils sont particuliers, ce sont des ascètes. Pour les autres, on va retrouver l'enseignement graduel. Donc ça, c'est un point sur lequel je m'arrêterai plus particulièrement. Tous ceux qui vont avoir entendu ces 4 réalités vont connaître ce qu'on appelle l'ouverture de l'œil du Dhamma. Donc d'abord, il y a un premier ascète qui s'appelle Kondanya. Ensuite, les quatre autres. Puis, il y a Yassa. Puis, il y a le père. Puis, il y a la mère et la femme. Puis, il y a tous les autres, tous les amis, tous les compagnons de Yassa. L'œil du Dhamma, voici le texte qui permet de pour chacun d'entre eux. Voilà la formule qu'on trouve à chaque fois. J'ai essayé de traduire ça, comme toujours, au plus près du texte original. Donc, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours très compréhensible, le résultat, mais ça me paraît important d'essayer de coller le plus possible au terme. Alors, j'ai fait exprès de ne pas traduire le terme de Dhamma, l'œil du Dhamma, parce qu'il y a un problème sur cette expression. Dans certaines traductions, vous lirez que Kondanya a connu l'ouverture de l'œil du Dhamma. Ce n'est pas ce que dit le texte. Il n'y a pas d'ouverture ici. Ce qui nous est dit, c'est que apparaît ou apadi l'œil du Dhamma. Et il y a cette expression très bizarre, Kondanyasa. Donc Kondanya, c'est le nom du personnage, et sa forme grammaticale, c'est ce qu'on appelle un datif. C'est-à-dire que ça indique le but. Et ici, l'idée de au profit de. Donc, ce que j'ai traduit moi par au profit du vénérable. C'est assez étrange comme formulation, mais ça me paraît important parce que ça n'est pas Kondanya qui ouvre les yeux sur une réalité, c'est une vision qui se produit, dont bénéficie Kondanya. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas Kondanya qui fait quelque chose comme ouvrir un œil, c'est qu'il y a une vision qui se produit et Kondanya en bénéficie. Cet œil, il est Virajam Vitamalam, ça veut dire immaculé, dépourvu de poussière. Et c'est cette absence de souillure, de poussière, qui lui fait s'exclamer. Donc vous avez la traduction, quel qu'il soit, Kinshi, tout ce qui est. Alors, Dhamma, on peut le traduire par qui a la nature de, qui est fondamentalement, a une origine, ça a pour nature d'être arrêté, de cesser. Cette chose-là, cette liaison-là, n'est possible que grâce au Dhammacakkhu. Ce n'est pas quelque chose qui relève de l'intellect, ce n'est pas une réflexion, mais c'est quelque chose qui se produit à l'audition de l'enseignement. Juste après cet épisode de l'œil du Dhamma, les Devas, les dieux qui habitent tous les cieux, vont proclamer la mise en mouvement de la roue du Dhamma. Et là aussi, je trouve que c'est très intéressant de voir que, contrairement à ce qu'on croit habituellement, contrairement à ce que vous lirez habituellement, on vous dit, c'est l'enseignement du Bouddha, le fait qu'il donne son premier enseignement, qu'on appelle la mise en mouvement de la roue du Dhamma, de la roue de la loi. Et Dhamma, on l'emploie pour désigner l'enseignement. Moi, je pense qu'il ne faut pas traduire Dhamma par enseignement. Je pense que Dhamma, dans tous ces textes-là, désigne en fait la loi qui régit l'univers, la loi du monde, ce qu'on trouvera traduit parfois par l'ordre des choses ou la réalité. Et cette proclamation des Devas, elle n'a pas lieu à la fin de l'enseignement du Bouddha, mais après que Kondana dit cette phrase, quelle qu'il soit, tout ce qui a pour nature de surgir a pour nature de cesser. C'est-à-dire que les Devas parlent de la mise en mouvement de la roue de la loi, non pas quand le Bouddha enseigne, mais quand le premier de ses disciples connaît cette transformation, rentre dans un autre courant. Et en l'occurrence, on peut faire bien évidemment une comparaison entre le fait de suivre un courant et le fait d'une roue qui tourne. Le Dhamma, c'est une roue, c'est présenté par une roue, parce que ça montre justement qu'il y a un cycle d'apparition et de disparition. Kondana vient de comprendre ce cycle. Autrement dit, il suit le mouvement. Il est dans le mouvement. Il entre dans ce courant qui est celui du Dhamma. Donc la mise en mouvement du Dhamma, de la roue du Dhamma, c'est le fait que le Bouddha ait pu, grâce à son enseignement, faire que quelqu'un d'autre que lui soit lui aussi entraîné dans le mouvement de la réalité, ait pris conscience de ce mouvement-là, qu'il soit sorti du courant ordinaire du samsara et qu'il commence à entrer dans le courant qui va à contre-courant du samsara. Donc, quand on parle de cette mise en mouvement de la roue de la loi, le texte nous dit qu'elle ne peut pas être mue en arrière par aucun autre. Et ailleurs dans le canon, on nous dira que celui qui est entré dans le courant va obligatoirement atteindre la libération. C'est un basculement qui ne peut pas connaître de retour en arrière. Vous voyez, ces expressions-là auxquelles on ne prête pas beaucoup attention habituellement montrent qu'en fait, cette mise en mouvement de la roue de la loi, ça n'est pas le discours. C'est ce qui va provoquer dans l'esprit de son auditeur, de ses auditeurs. C'est le fait qu'on va passer d'un mouvement qui nous mène, qui nous maintient dans le samsara, à un autre courant, un autre mouvement, un autre cheminement, un autre sentier, une autre voie qui mène inéluctablement, sans qu'on puisse revenir en arrière, jusqu'à l'éveil et à la libération. Et c'est ça que saluent les dieux. Ça n'est pas le fait que le Bouddha enseigne, c'est le fait que son enseignement ait produit cet effet-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement que ailleurs dans le canon, on va nous dire que quelqu'un qui est entré dans le courant, donc, ne peut pas revenir en arrière. Et puis, d'autre part, quand le Bouddha va parler de Sariputta, un de ses meilleurs disciples, il va dire aussi que Sariputta met en branle la roue de la loi, la roue du Dhamma. Donc, ça ne peut pas dire que c'est le premier enseignement qui est une mise en mouvement, puisque Sariputta enseigne bien après le Bouddha. Et pourtant, lui-même, il va aussi mettre en mouvement la roue du Dhamma. Ce que le Bouddha dit dans ce cas-là, c'est que l'enseignement que transmet Sariputta, il est lui aussi capable de provoquer cette même transformation chez ses auditeurs. Il est lui aussi capable, après le Bouddha, de donner un enseignement performatif, pour employer les termes un petit peu plus complexes que j'ai évoqués tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce que je viens de dire pour l'instant? Ou ça vous laisse sans voix? En fait, je vous donne un petit peu de temps pour réfléchir. C'est un petit peu un défi que je vous propose. Moi, personnellement, j'appelle ça une méditation bouddhique. C'est-à-dire, j'emploie pas du tout le mot méditation dans le sens où on l'emploie habituellement. Bon, certains d'entre vous le savent. J'aime pas du tout qu'on parle de méditation pour parler de samatha, des jhanas, de vipassana, etc. Pour moi, ce n'est pas des méditations. En revanche, dans l'enseignement du Bouddha, on invite à faire des méditations sur son enseignement. Méditation au sens où on emploie ce terme en français et dans la religion chrétienne, c'est-à-dire de mener une réflexion approfondie sur un texte pour être sûr de bien le comprendre, pour être sûr pour le vérifier, pour le mettre à l'épreuve de notre propre réflexion, et finalement pour l'adopter, pour faire qu'il devienne notre propre manière de penser. Il y a un texte que je cite souvent qui s'appelle le Chanki Sutta. C'est un très long texte où le Bouddha est interrogé par un jeune brahmane, mais il y a un petit paragraphe dans lequel le Bouddha dit, il reprend un petit peu une méthode en bref de cheminement. Et il dit que lorsqu'on est en recherche spirituelle et qu'on a enfin rencontré quelqu'un en qui on a confiance, on doit commencer par écouter ses enseignements, les apprendre par cœur, les garder en mémoire, les étudier, les méditer, les mettre à l'épreuve de l'expérience et finalement les faire sien. Et une fois qu'on est parvenu à ce stade de faire sien l'enseignement entendu, écouté, reçu, alors on a l'énergie, l'impulsion qui fait rentrer dans la pratique. Et cette pratique elle-même, elle va connaître deux étapes. Il y a la pratique qui va permettre de faire une première expérience qui va devenir une expérience radicale, dans le sens où ça va vraiment nous faire basculer dans une autre manière d'être et de vivre. Et puis, la poursuite de ces pratiques va nous mener jusqu'à la libération. Et je trouve que dans ce texte-là, on a quelque chose de comparable avec ce qu'on a dans le serment de Bénarès, dans le récit sur le serment de Bénarès. Vous avez d'abord la rencontre avec quelqu'un en qui on doit avoir confiance. Et là, c'est le rôle de l'introduction. Les 5 à 7 au début refusent de parler au Bouddha et il doit arriver à les convaincre qu'il les écoute, qu'ils aient confiance en lui. On pourra le revoir en détail pourquoi ils n'ont pas confiance en lui. Pareil pour tous les autres personnages, il va commencer par un enseignement graduel qui va les rendre, qui va leur donner un esprit plus souple, plus malléable, capable d'entendre son enseignement. Ensuite, il va y avoir une réflexion, une méditation sur ces enseignements jusqu'au moment où il va y avoir un basculement, donc une pratique qui va mener à un basculement. Et ça peut être effectivement le rôle du discours des quatre nobles vérités qui peut être considéré comme une pratique et non pas comme un discours théorique. Et ensuite, ces personnages-là vont s'engager comme bhikkhu ou comme upasaka dans une autre pratique, une continuation de cette pratique qui va les emmener plus loin jusqu'à l'éveil et à la libération. Donc vous voyez, c'est dans différents endroits du canon, sous des formes différentes, on retrouve ces différentes étapes, ces différents basculements. Donc je pense que c'est vraiment une structure qui est fondamentale dans l'enseignement du Bouddha, hein, et qu'il faut essayer de percevoir après. Quand on lit les textes, de savoir si ces textes-là font partie plutôt de l'introduction, plutôt du premier enseignement à méditer, plutôt de l'enseignement qu'il faut pratiquer. Est-ce que c'est une pratique de départ? Est-ce que c'est une pratique approfondie? Est-ce que ça nous mènera à l'ouverture, à cet œil de la loi, cette expérience de l'œil de Dhamma? Est-ce que c'est une expérience qui va nous mener à la libération? Essayer de comprendre où on se situe par rapport à tous ces différentes phases, ces différentes étapes de l'enseignement et de la démarche. Donc là, moi, quand je parle de méditation bouddhique, c'est de quand je prends un texte ou un ensemble de textes et que j'essaye de trouver la cohérence de tout ça, de voir comment les textes se répondent les uns les autres, comment les termes nous donnent des informations que souvent les traductions vont masquer un petit peu. Et j'aurais voulu aujourd'hui insister un petit peu justement sur. Alors, je ne vais pas commencer par le début du texte. Là, j'ai évoqué un petit peu plus dans le détail ce qu'on appelle l'œil du Dhamma et surtout la mise en mouvement de la roue du Dhamma. Donc, je voudrais revenir un petit peu sur cette idée de mouvement, de courant, de cheminement, de sentier. C'est quelque chose sur lequel j'insiste extrêmement souvent. On trouve dans toutes les formules, les rituels, les pujas, des
Qu'est-ce qui se passe là? On n'entend plus.
Dominique, je crois qu'il y a un petit problème avec le son.
Oui, on
Oui,
n'entend plus.
effectivement, ça a été coupé, je suis désolé.
Voilà.
J'ai pourtant pas l'impression d'avoir touché à quoi que ce soit. Alors, excusez-moi, parce que du coup, je ne sais pas où vous m'avez entendu en dernier.
Il y a quelques instants
À
simplement.
quelques instants. Ouais. Alors, donc, je
Mouvement.
disais,
Mouvement, ouais.
j'évoquais tous les termes qui parlent de sentiers, de voies, de chemins, d'aller en avant, de courant, de suivre le mouvement, etc. Je voudrais revenir donc à un autre texte. Je ne vais pas prendre le texte forcément dans l'ordre. Je vais plutôt me focaliser sur des idées, sur des thèmes et voir qu'est-ce que ça peut nous apprendre, qu'est-ce que ça, en quoi ça doit nous faire réfléchir. Et donc il faut que j'accède à l'écran partagé à nouveau. Je reviens à mon texte. Et voilà, je vais commencer par ce texte-là, alors que j'ai traduit très différemment des traductions habituelles. Cette formule que j'ai intitulée L'engagement à accompagner le Bouddha, c'est ce que vous lisez sous l'appellation habituelle de l'ordination des moines. Donc ceux qui me connaissent savent que je déteste le terme de moine, que je n'aime pas du tout le terme d'ordination. Tous ces termes-là viennent du christianisme, et plus précisément du catholicisme. Et pour moi, ça ne permet pas de comprendre la réalité du texte et la réalité des idées qui sont dans le texte. Donc cette formule, c'est celle que va, après la proclamation des Devas sur la mise en mouvement de la roue du Dhamma, Kandanya reprend la parole. Ou plus exactement, excusez-moi, il y a un petit épisode que j'ai retiré où le Bouddha proclame que Kandana est le premier à avoir connu le Dhamma. Et donc, il va transformer son nom de Kandana en Agnassi Kandana. Quand je le surligne comme ça, vous voyez que je surligne? Oui, d'accord. Donc,
Oui.
Agna, c'est la connaissance. Donc, Agnassi Kandana, ça veut dire Kandana qui connaît, Kandana qui a acquis la connaissance. Et donc, en quoi consiste cette connaissance? Il a vu, il a atteint, il a connu, il a pénétré le Dhamma. Donc, ça, c'est tous les termes que vous avez au-dessus. Ditta, c'est voir. Patta, c'est atteindre. Vidita, c'est voir dans le sens de connaître, qui est un peu différent de dita, qui est voir dans le sens de la vision. Et pariyogalya, c'est pénétrer, aller en profondeur à l'intérieur de. Ces termes-là ne permettent pas de traduire dhamma par enseignement. Kandanya n'a pas atteint l'enseignement, il n'a pas connu l'enseignement, il n'a pas pénétré l'enseignement. C'est Dhamma, dans ce cas-là, il faut vraiment l'entendre comme l'ordre des choses, la réalité, qui consiste à cette formulation très synthétique de la coproduction conditionnée, ce qui apparaît doit disparaître. Ce qui nous est précisé aussi, c'est que ce Condania a dépassé les doutes, rejeté les incertitudes, obtenu la confiance en lui-même et se trouve désormais indépendant d'autrui en ce qui concerne les instructions du maître. C'est dire à quel point cette expérience est extrêmement puissante. Et vous retrouvez effectivement dans cette expression-là des mots, des termes, notamment dépasser les doutes, rejeter les incertitudes, quelque chose qui va rentrer dans la définition de ce qu'on appelle un entrée dans le courant. On dit d'un entrée dans le courant qu'il a mis fin au doute. C'est une des caractéristiques de l'entrée dans le courant. Pourquoi ? Ben justement, parce qu'il a vu, atteint, connu et pénétré lui-même. Il n'est plus justement dans le oui-dire. Il n'en est pas resté à croire la parole du Bouddha quand il parle du Dhamma. Il a fait l'expérience directe. C'est pour ça qu'il a obtenu la confiance en lui-même. Il n'a pas besoin d'un autre. Il n'a même pas besoin du Bouddha. Il est indépendant en ce qui concerne les instructions du maître, indépendant de quiconque, y compris du Bouddha, d'une certaine manière. Ce basculement, il est vraiment, il passe de l'audition de l'enseignement à l'expérimentation née de l'audition de l'enseignement, l'expérimentation de la réalité. Et à ce moment-là, Condanna va demander deux choses au Bouddha. La première, c'est ce qu'on appelle Pabajja. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle Upasampada. Dans les traductions habituelles, historiquement un peu anciennes, Pabajja, on va appeler ça l'ordination mineure, et Upasampada, on va appeler ça l'ordination majeure. Est-ce que ça vous apprend quelque chose ? Ben, pas grand-chose. Lorsque vous regardez les termes eux-mêmes et la traduction qui serait la plus proche de l'étymologie, celle que je vous propose, pour Pabajja, je traduis ça par se mettre en chemin. Se mettre en chemin. Pabajja. Pajja, c'est le fait de partir, de quitter, de s'en aller, de se mettre en route, de commencer un voyage. Bon, santike, ça veut dire en compagnie. Donc, Bhagavato santike, c'est en compagnie du bienheureux. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Accompagner le Bouddha ». Donc, ce qu'on appelle habituellement l'ordination mineure, en fait, c'est l'expression d'un disciple qui, parce qu'il a expérimenté un aspect fondamental de la réalité, décide de se mettre dans les pas du Bouddha, de suivre le Bouddha, de cheminer avec le Bouddha, de l'accompagner. Et Upasampadam, ça peut être traduit, j'ai mis très très longtemps à essayer de trouver une traduction, bon, j'en propose une, c'est suivre la conduite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Du point de vue du mot en lui-même, c'est upa, puis sam, puis pada. Pada, c'est le pied, mais c'est aussi le chemin. C'est le fait, là encore une fois, quand on avance les pieds, on crée un chemin. Sampada, le sam, c'est l'idée d'une totalité, d'une complétude ou d'une conformité. Bon. Et upa, c'est un préfixe qui veut dire aller dans une direction ou se mettre en dessous de. C'est assez complexe. Je le ressens, moi, personnellement, comme le fait d'être upa dans la succession d'être sous les ordres du Bouddha, suivre les instructions du Bouddha. Et Sampada, qui est une expression qui montrerait justement quelle est cette façon de marcher. Donc, conduite, pour moi, ça traduit le fait à la fois qu'il s'agit de... vous verrez qu'après, il y a un autre terme qui, pour lequel je vais peut-être continuer. Vous allez comprendre peut-être après. Je passe sous silence pour l'instant à Ibiku. Ce que le Bouddha va proposer ensuite, c'est Chara Brahmacharya. Chara et Charya sont de la même racine qui a donné en français le mot char. Donc, c'est encore quelque chose qui a un rapport avec le mouvement. Brahmacharya, vous le traduiserez, généralement, vous le trouvez dans les traductions, comme la conduite pure. Le fait de se conduire de façon pure. C'est une expression aussi qui va désigner en fait l'octuple sentier. Et il s'agit là aussi, avec l'emploi de ces termes, de l'idée d'entrer dans un mouvement, d'entrer dans une avancée qui se fait pas à pas. Dans un texte, le Bouddha compare son enseignement au fait de remettre ses disciples sur le sentier qui avait été perdu, par lequel tous les Bouddhas avant lui comme lui parvenaient au Nibbana. Et donc, il s'agit de suivre les traces du Bouddha, de continuer des Bouddhas, pas seulement le Bouddha, mais les Bouddhas. Et donc là, pour cette idée qu'on trouve aussi bien dans Pabaja, dans Upasampada, ou dans Chariya, c'est toujours cette idée d'être dans un mouvement, dans une avancée, dans une direction. Pabaja, c'est plutôt pour quitter quelque chose. Upasampada et Chariya, c'est plutôt pour atteindre quelque chose. Mais c'est toujours cette idée de, voilà, il y avait une situation dans laquelle je me trouvais, maintenant, je vais dans une autre direction, j'emprunte un autre chemin, je suis dans une autre voie, je n'ai plus de doute, je n'ai plus d'incertitude, je suis confiant, je sais que la voie est bonne, je sais que le Bouddha est celui qui me montre la voie, que je dois faire le chemin en sa compagnie, et je demande en fait à être en compagnie du bienheureux sur ce chemin et de suivre la même conduite que le Bouddha. Cette conduite que le Bouddha va m'enseigner qui s'appelle le chemin, l'octuple sentier. Jusque-là, vous me suivez? Ça va? C'est pas trop compliqué, j'espère. Et puis, il y a cette expression, Ei Bhikkhu, qui d'habitude est traduite par Viens, moine. Et moi, j'ai traduit ça par va content. Alors, il y a un petit problème de traduction pour EI. EI, c'est une forme du verbe aller. I en sanskrit, IT en pali, IRE en latin, que vous retrouvez dans le français IRE, j'irai, hein, au futur. Et donc là, c'est l'impératif. Donc, l'impératif du verbe aller, c'est va, c'est pas viens. Alors, ça a l'air bête de dire, bon, va, viens, c'est quand même pas très, très différent. Mais je pense que le va, ça correspond à Pabaja, c'est l'idée de partir de quelque part. C'est de s'en aller, de quitter quelque chose. Alors qu'habituellement, dans les traductions, on le présente plutôt comme une invitation à rejoindre le Bouddha. Viens, bhikkhu, viens, moine. Moi, je pense que si on veut vraiment traduire EI, il vaut mieux le traduire par va que par viens. Mais bon, ça, c'est un petit détail, mais je pense que c'est justement ça, ça remplace ça. C'est en relation avec cette idée de Pabaja, de partir. Et alors, traduire bhikkhu par content, ça, c'est une proposition que je fais depuis extrêmement longtemps, qui perturbe beaucoup de gens. Mais je pense que Moine ne donne absolument aucune idée de ce qu'est la signification du mot bhikkhu. Et je pense qu'on a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est fondamentalement qu'un bhikkhu. Alors, étymologiquement, ça vient d'un verbe qui exprime le désir d'avoir en suffisance. Voilà, c'est très précisément ça, le désir d'avoir en suffisance. Donc, pour moi, exprimer cette idée-là, la meilleure façon de le faire, c'est de parler de se contenter de. La vertu du contentement. Et je le mets en rapport avec ce qui est justement précisé dans le Vinaya, les règles que doivent suivre les bhikkhus, dans lequel il est précisé qu'un bhikkhu ne doit jamais rien demander. Il doit simplement recevoir en offrande ce qui lui est proposé. Or, l'attitude du bhikkhu ici, c'est d'abandonner le mode de vie ancien qui était le sien et de suivre le mouvement de l'ordre des choses, de suivre le mouvement de la roue du Dhamma, de suivre la réalité telle qu'elle se présente avec ses apparitions et ses disparitions. C'est donc d'être dans l'acceptation que les choses qui apparaissent disparaissent. Et c'est de s'en contenter. C'est de ne pas repousser cette situation-là. On le reverra dans l'ouverture du discours aux ascètes, lorsque le Bouddha présentera les deux extrêmes qu'il faut éviter pour adopter la voie du milieu. Ces deux extrêmes, c'est justement le refus d'une réalité et la volonté de faire quelque chose pour corriger cette réalité. Ce que fait le bhikkhu, c'est d'accepter la réalité et d'une certaine manière de s'en contenter. Donc je pense que le terme de bhikkhu pourrait assez justement être traduit par « content ». C'est celui qui se contente, c'est celui qui est content de ce qui se produit. Le Bouddha va développer cette acceptation que Kondanya et les autres veuillent l'accompagner et vivre sur le même mode de vie. Le Dhamma a été bien exposé. C'est le terme svakato. Sva, c'est sous, qui veut dire bien, et akato, ça peut être traduit de différentes manières. J'ai choisi une traduction un peu ambivalente, exposée, dans le sens où ça veut dire à la fois qu'elle a été dite, qu'on en a fait un exposé, on en a fait un discours, mais ça veut dire aussi que la personne l'a vue, elle a été exposée à sa vue. Donc, en fait, quand le Bouddha s'adresse à Kondanya, au bhikkhu, il lui dit, ben voilà, le Dhamma a été rendu visible. Tu as fait l'expérience du Dhamma. Et ensuite, il lui propose donc Charachariyam de s'engager dans l'engagement. Hein, Chariya, c'est vraiment le même mot. Donc, j'ai répété le verbe et le substantif. Engage-toi selon l'engagement. Et j'ai eu envie de traduire Brahma, parce que Brahma, pour nous, ça évoque un dieu. Mais ce mot Brahma, il a une signification, il a un sens. Brahma, c'est le puissant, le fort, celui qui, dans la tradition indienne, est le plus fort parce qu'il est le moins actif. Ça, c'est quelque chose qui fait partie du contexte indien, même du contexte asiatique, qui est important à comprendre. Les dieux sont ceux qui ne font rien. C'est une des raisons pour lesquelles les Asiatiques ont eu beaucoup de mal à accepter le dieu chrétien qui n'arrête pas de faire des choses. Ils ne voulaient pas le considérer comme un dieu, parce qu'il le trouvait trop actif. Brahma, c'est celui qui ne gaspille pas ses forces. Or, que va reprocher le Bouddha aux êtres ordinaires? C'est de passer leur temps à faire des choses. Karma, ça veut dire faire. Et on veut mettre fin au karma. On veut mettre fin à ce, j'ai envie de dire, le brahmacharya, c'est l'anti-gaspi. C'est le fait d'avoir un comportement où on ne se perd pas. Samsara, ça peut se traduire par l'errance. C'est arrêter de passer son temps à courir après quelque chose. Donc, l'engagement ici, c'est un engagement qui va éviter de se gaspiller, éviter de se disperser, permettre de se concentrer, permettre d'être attentif. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce que vous savez des pratiques bouddhiques, hein? Samatha, c'est rechercher le calme. Vipassana, c'est observer. Si vous êtes dans l'agitation, si vous êtes dans le gaspillage de l'énergie, vous n'y arriverez pas. On va vous demander dans l'occupe le sentier de cultiver l'énergie. Brahmacharya, c'est cette façon de vivre, cette façon de s'engager dans une voie sans se gaspiller, sans se perdre, sans oublier l'essentiel. Et vous le retrouverez dans l'octuple sentier, c'est le deuxième terme, la motivation juste. Donc, qu'est-ce que je retire de toute cette petite, de ces formules-là? Donc l'engagement après, bon, il y a juste cet engagement, cette brahmachariyam, antakiriya, ça veut dire il met fin, dukkasa, adukka, l'insatisfaction, samma, de façon correcte et complète. Donc c'est la brahmacharya, c'est vraiment cette attitude qui va permettre de dépasser dukkha et l'insatisfaction. Donc, pour essayer de conclure un petit peu, et puis après, je répondrai à des questions si vous en avez. Je voulais vous présenter à la fois un peu ma méthode et un exemple de ma méthode. Mon idée, c'est d'essayer de voir dans ce texte, dans ces textes-là, comment ils vont se répondre les uns les autres, comment ils vont illustrer une certaine méthode, un certain cheminement, comment les termes vont confirmer aussi cette vision des choses et de relire ces textes-là de façon totalement différente de celles qu'on a eues jusqu'à maintenant, notamment par des traductions qui les déformaient, les simplifiaient, voire arrivaient à mon avis à des contresens. Là, l'essentiel pour moi déjà, c'est de montrer que ce qui est important dans ces enseignements-là, et notamment dans l'enseignement des quatre vérités, c'est qu'il n'est pas un enseignement théorique, il n'est pas un enseignement qui définit dukkha, mais il est un enseignement qui permet à un esprit bien préparé de connaître un choc qui est une véritable conversion, puisque ça va l'écarter d'un cheminement qui était le sien auparavant pour l'emmener dans une direction différente, dans une façon d'avancer sur une voie autre et de cheminer d'une autre manière. Est-ce que vous me suivez jusque-là?
Oui.
Alors, il y en a un qui dit oui. Et puis donc, cette proclamation des débats, cette idée que la mise en mouvement de la roue de la loi, de Dhamma, ça n'est pas l'enseignement, mais c'est justement cet événement de l'œil qui voit la réalité. Je voudrais vraiment que vous puissiez réagir et que vous me disiez si vous m'avez suivi sur le chemin, si vous avez des questions, si ça vous interpelle ou pas, si c'est trop difficile, vous pouvez me le dire aussi. Bon, vous avez peut-être eu l'impression que je partais un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que quand j'enseigne à Vivekarama, je ne veux pas faire un cours comme je le faisais à l'IEB, Et donc, du coup, je laisse beaucoup de place à l'improvisation, ce qui peut parfois être un peu déstabilisant. Donc, voilà, je voudrais que vous vous exprimiez maintenant à votre tour. J'ai Christophe qui
Très
voudrait parler.
intéressant, mais j'aurais une question par rapport à l'intitulé Proclamation des Devas pour la mise en mouvement de la roue du Dhamma.
Oui, quelle
Proclamation des
explication?
Devas. Est-ce qu'il y a un texte à ce sujet, enfin un intitulé qu'on peut vraiment traduire de cette façon-là? Parce que, bon, on pourrait penser que c'est plutôt le bienheureux qui a mis en évidence cette chose-là.
Alors, je vous ai montré le texte. Je vous ai montré le texte, c'est celui-là. Ça, c'est la proclamation des Devas. Par le bienheureux Abénarès, Aissipatana ou Parcoser, l'insurpassable roue du Dhamma a été mise en mouvement. Il ne peut être mu en arrière par aucun Samana, aucun Brahmana, aucun Deva, aucun Mara, aucun Brahma, ni qui que ce soit en ce monde.
Oui, ce que je trouve un petit peu surprenant d'une certaine façon, c'est qu'on met en avant dans l'intitulé, comment dire, l'éclairage peut-être fait par les devas, et puis ensuite on dit que aucun deva, aucun être vivant, donc enfin, personne ne peut remettre en cause cette progression ensuite de la roue du Dhamma.
Oui, je ne vois pas où vous voulez en venir. Quelle est votre question?
Non, c'est par rapport au Deva, simplement l'importance qui est donnée au Deva dans cet intitulé,
Alors,
au niveau de l'intitulé.
les Devas font partie dans la tradition bouddhique de ceux qui, bien qu'ils ne soient pas capables de mettre en pratique l'enseignement du Bouddha, en connaissent la valeur et incitent les humains à mettre en pratique cet enseignement.
D'accord.
Et donc là, d'une certaine manière, ils sont en train de saluer le fait qu'un premier humain a pu bénéficier, par expérience directe, du Dhamma, de cet enseignement du Bouddha. Voilà. Donc les Devas n'ont pas de... Ils ont toujours un rôle de gardien dans les textes bouddhiques. Ce sont des gens qui entendent les enseignements du Bouddha, mais leur situation dans les cieux ne leur permet pas de les mettre en pratique. Donc, ils poussent les humains à le faire. Et d'ailleurs, dans la tradition du Theravada, quand on fait une offrande, vous savez ce qu'on appelle dans le bouddhisme le transfert des mérites. Dans le Theravada, ça existe aussi cette idée du transfert des mérites, où on transfère, l'expression transfert de mérite, elle a aussi un petit peu problématique parce que ce n'est pas vraiment des mérites. Mais bon, c'est un autre sujet. On peut les transférer que au Dieu, à ses parents défunts qui sont sous forme de fantômes affamés. Et voilà, donc les dieux peuvent bénéficier de l'enseignement sans le mettre en pratique, et ils peuvent bénéficier des dons qu'on fait en leur nom, et ça va leur permettre de bénéficier de conditions meilleures quand ils ne seront plus dieux et qu'ils reviendront dans une situation humaine. Il n'y a que les hommes hein, qui peuvent mettre en pratique l'enseignement du Bouddha.
Très bien, merci, c'est clair.
Dominique,
Oui.
je suis Bante de Genève.
Ah, bonjour.
Oui, nous sommes très, très contents de vous écouter et on vous remercie beaucoup toujours pour votre enseignement très riche et
Merci à vous.
impressionnant. OK,
Parfait.
c'est aussi, je suis très content de vous tenir le coup comme il faut. Maintenant, nous sommes très, très, très contents de voir ça. Hein? Alors, si vous êtes d'accord, je ajoute une petite chose, une mineure, par rapport à la bhikkhu.
Oui.
Okay? Il y a une autre définition qu'on trouve dans le texte, vous le voyez ça. On dit Sansare bhayam ikkati iti bhikkhu. C'est-à-dire, les moines, je suis encore moine, les moines, ils sont toujours à la peur de cette cycle de continuité de
Ils ont tous.
samsara. Vous
Ils
avez
ont
compris?
quoi? Non.
Les moines, ils sont toujours ennuyés de voir la peur de continuer ce cycle de continuation de samsara. Les moines sont toujours regardés profondément et voient la peur.
Oui.
Voient la peur. Pourquoi on continue cette samsara? Oui. Toujours on est éradiquer totalement tous les causes de samsara.
D'accord.
C'est très bien dire samsara bhayam, vous connaissez Pali, ikkatiti bhikkhu.
D'accord.
Ok, c'est juste une ajoutée. Vous savez dire que bhikkhan ikkatiti bhikkhu, bhikkhu qui vit de la donation, les gens qui font pas sa propre volonté. Premier. Le deuxième, les moines toujours, pas juste pour vivre comme manier nous voulons, mais toujours on lui de voir la peur.
Ouais.
Pourquoi nous allons continuer ce cycle de continuité? C'est la raison pour laquelle nous allons toujours pratiquer rapidement afin de libérer de samsara. Ça, c'est les moines.
Ouais. Donc ça renforce l'idée de désir.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Plaisir.
À fait.
Ça, c'est un thème que j'aimerais aborder aussi un peu plus tard.
Oui.
On dit toujours que le bouddhisme, c'est mettre fin au désir.
Oui.
Mais il y a un désir dans le bouddhisme qui est le désir de la libération.
Hein. Ouais.
Et le terme, c'est le même qui est employé aussi bien pour désigner le désir dans le samsara, ce qui nous fait avancer dans le samsara, que ce qui nous fait avancer vers l'éveil et la libération. Donc là, je ne sais pas si tout le monde a très bien compris ce que vient de dire Bhante, c'est donc l'idée que le bhikkhu, c'est celui qui est sans cesse obsédé, on pourrait dire, qui a toujours présent à l'esprit le fait qu'il faut sortir du samsara, qu'on ne peut pas rester dans cet état, dans ce courant du samsara, qu'il faut passer dans l'autre courant, celui qui mène à la libération.
Merci, vous remercie beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, Dominique.
Je vous en prie, Bhante, c'est moi qui vous remercie. Christophe
Monsieur Trottignon, j'ai trouvé intéressant que vous ayez traduit bhikkhu par content, parce que étymologiquement, ça vient de bhaj,
oui.
Et je trouve que bhagavan, ça vient aussi de bhaj. Alors, du coup, est-ce que vous voyez un lien entre du coup bhagavan et bhikkhu?
Alors,
et puis il y a aussi le bhakti, plus tard, qui vient aussi étymologiquement du même mot. Et ça, je trouve ça intéressant.
Alors, c'est vrai que je n'ai pas pensé à regarder pour bhagavan.
Bhagavan, ça vient du même mot.
Oui, c'est vrai que ça vient de la même. Alors, bhikkhu, ça vient plus exactement de bhiksh, qui est la forme du désidératif de bhaj. Donc, c'est celui qui recherche le fait, ce qui est représenté par bhaj. Et bhaj, c'est celui qui dispose en suffisance.
D'accord.
Donc, le bhagavant, on le traduit par le bienheureux, parce que c'est celui qui est satisfait, on va dire. Hein. Celui qui est pleinement satisfait. Ça aussi, on peut le mettre en relation. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Mais, j'aurais dû vous en parler. Comment vous dire? Bon, il faut que j'en parle après. Il faudra que je vous parle de Dukkha, Sukha et de la roue. Il faudra me rappeler ça. Donc là, effectivement, le bhagavan, c'est celui d'une certaine manière qui est
qui comble,
c'est qui possède en suffisance tout ce dont il a besoin, donc qui est satisfait. Et le bhikkhu, c'est celui qui désire parvenir à cette satisfaction. Et donc, pour parvenir à cette situation, pour moi, j'admets que cette traduction n'est pas étymologiquement absolument pure, c'est une traduction qui est plus dans l'esprit que dans la lettre. Je pense que le mot « content » permet de percevoir ce que veut dire bhikkhu dans le sens de celui qui va ne pas rechercher plus que ce dont il a besoin, sinon d'être satisfait. Donc, celui qui va essayer de trouver cette satisfaction et d'agir pour être satisfait, donc de se contenter de. Voilà. Donc, ce n'est pas une traduction littérale, mais je pense que le terme de mot… Si vous voulez, je voulais essayer de trouver un mot qui soit simple pour donner l'idée que je ressens quand j'étudie le terme de bhikkhu. Moine, pour moi, c'est absurde. Ça, on applique à une religion un terme qui vient d'une autre, et qui n'a aucun rapport au niveau du sens, alors que le mot bhikkhu, il a un sens, Et je suis sûr que ceux qui sont de langue, qui entendaient le prakrit ou le sanskrit ou le pali, etc., entendaient cette famille de mots, comme vous l'avez fait, puisque vous êtes, vous, indien d'origine et donc vous avez cette connaissance de la langue, vous avez vu tout de suite la relation avec le mot Bhagavant. Donc le bigou, c'est celui qui veut devenir Bhagavant, d'une certaine manière. C'est celui qui fait en sorte d'être en imitation du Bhagavant. Voilà. Et donc, pour moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure dans le Vinaya, effectivement, on se contente de ce que l'on reçoit, on ne demande rien. Donc, je trouvais que ce terme de content donnait toutes ces idées-là, permettait de réunir un petit peu cet état d'esprit, de rendre compte de cet état d'esprit-là. Voilà.
Merci.
On est d'accord ?
Merci.
Alors, quelqu'un dit de Bhante qui vient du mot Bhagavant. Oui, effectivement, Bhante, c'est une forme régionale du mot Bhagavant. Quelqu'un dans les questions écrites me demande qu'est-ce que c'est qu'un Upasaka. Alors, j'en reparlerai quand je reparlerai plus précisément de la différence entre Bhikkhu et Upasaka. Simplement, le terme Upasaka veut dire être assis en dessous. Et ça désigne celui qui s'assied au pied d'un enseignant. Donc, la différence entre un Upasaka et un Bhikkhu, qui tous les quatre, hein, donc Upasaka, Upasika pour les femmes, Bhikkhu, Bhikkhuni pour les femmes, ces quatre types de personnes forment ce qu'on appelle le Sangha, des disciples, les auditeurs du Bouddha. Le Bhikkhu, j'ai envie de vous dire, c'est celui qui pratique le contentement. L'Upasaka, c'est celui qui écoute les enseignements. Donc, il y a cette idée de différence par rapport au cheminement que j'évoquais dans le Chanki Sutta. On commence par écouter les enseignements, par les étudier, par les méditer, afin de les finir par les adopter. Et ce n'est qu'une fois qu'on les a adoptés qu'on se met à pratiquer. Donc, le Bhikkhu, c'est celui qui pratique et l'Upasaka, c'est celui qui médite. Voilà, c'est un peu la réponse que je pourrais donner pour l'instant. Sinon, Upasaka, actuellement, dans la plupart des ouvrages, on parlera des laïcs. Mais c'est absurde, parce que laïc, ça veut dire les idiots, par opposition aux clercs, qui sont les savants. Et un Upasaka dans le bouddhisme, c'est celui qui étudie. Donc, on devrait traduire ça par les clercs. Donc, vous voyez, les traductions... des termes bouddhiques en français sont absolument aberrantes. Donc, je préfère qu'on essaye de comprendre ce que veut dire le mot. Et donc, Upasaka, c'est celui qui demande l'enseignement. Alors, une des différences qu'il y a entre Upasaka et Bhikkhu aussi, c'est que le Bhikkhu, justement, c'est celui qui ne demande rien, qui essaye de se contenter, alors que l'Upasaka, il est dans une attitude de demande, puisqu'il est au pied de quelqu'un et il demande l'enseignement. Donc, ça veut dire qu'il est plus dans le samsara, alors que le bhikkhu essaye d'être plus dans l'octuple sentier et donc d'être à contre-courant du samsara. L'upasaka accepte d'être encore dans le samsara, d'avoir besoin encore d'enseignement. Il n'a pas connu cette conversion qu'est l'œil du Dhamma, la vue, la visibilité, l'expérience du Dhamma. C'est bon ? Oui, Christophe, là, l'autre.
Oui, c'est juste pour dire que je trouvais ça plus intéressant par rapport à l'interprétation du mot, enfin, de l'expression loi du Dhamma en plus en termes expérimental, parce que ça vient un peu en contre-pied de cette vision qu'on a souvent en Occident de la vision philosophique, en fait, du Bouddha, enfin, de son enseignement. Mm-hmm. Ce qui fait que, souvent, voilà, ça, comment dire, souvent on pense que, c'est pas rare qu'on entende quand on parle de philosophie du Bouddha, alors que c'est justement la loi du Dhamma en termes d'expérience. C'est plus.
Alors, c'est la différence qu'il y a entre ce que j'appelais les discours informatifs et performatifs. Ouais. La question se pose de savoir justement quand on est en face d'un discours du Bouddha. Est-ce qu'il est informatif ? Est-ce qu'il y a des discours informatifs ? Qu'est-ce qui permet de reconnaître un discours performatif ? Est-ce que tous les discours sont performatifs ? Est-ce qu'il y en a qui sont informatifs ? Bon, tous les discours ne sont pas performatifs. Il y a aussi des discours informatifs dans l'enseignement du Bouddha. Mais beaucoup de ceux que l'on voit comme des discours informatifs, comme des discours théoriques, peuvent se voir, et à mon avis, devraient se voir plutôt comme des discours performatifs. Et donc, je reviendrai plus en détail sur ce discours de Bénarès, le premier discours de Bénarès sur les quatre nobles vérités, pour montrer en quoi, et puis le suivant aussi, pour montrer en quoi ça peut être considéré comme pas du tout informatif et complètement performatif. Voilà. En tout cas, là, dans ce récit, étant donné que tous ceux qui l'entendent proclament leur compréhension, leur expérience du Dhamma comme tout ce qui apparaît en fonction de cause disparaît, il est clairement présenté comme un texte performatif et pas du tout comme un texte informatif. Sinon, il ne provoquerait pas cela. S'il était purement informatif, purement intellectuel, ça n'aurait pas cet impact-là. Après, on pourra se poser la question aussi de, dans d'autres circonstances. Je vous ai parlé tout à l'heure de Sariputta. Sariputta donc, a connu l'entrée dans le courant en entendant l'ascète Asajji lui donner cette formule, donc comme tout le monde dans ce cadre de récit. Mais quand on va raconter ultérieurement comment il parvient à l'éveil et à la libération, ça va être aussi en entendant un enseignement, mais un enseignement que le Bouddha adresse à son neveu et suite à une réflexion qu'il fait. Donc, c'est assez amusant, c'est intéressant de voir qu'il y a… En fait, ce que j'aimerais aussi vous montrer à travers quelques exemples, et dans les… L'autre jour, Vivekarama, donc Guillaume Octavius, vous a envoyé un mail en disant « Si vous avez des thèmes à proposer, proposez-les ». J'ai reçu beaucoup de… Enfin, un certain nombre de mails qui me disaient « On aimerait bien avoir un enseignement sur la coproduction conditionnée ». Donc ça, j'aurai l'occasion d'en parler. Et puis, il y en a d'autres qui me disaient sur les jhanas. Et ça aussi, on l'évoquera. Parce que ce qui est assez surprenant dans ce récit des discours de Bénarès, c'est qu'on a l'impression qu'aucun de ceux qui deviennent arhants ne pratiquent quoi que ce soit. Ils ne font qu'entendre un enseignement du Bouddha. Et un certain nombre de chercheurs au milieu du XXe siècle disaient, à partir de ce texte-là et d'autres, ben, finalement, l'éveil, c'est une opération intellectuelle, c'est une conversion intellectuelle. Ça n'est pas de l'ordre de l'expérimentation liée à une pratique comme les jhanas ou autres, c'est plus de l'ordre de l'intellect. Mais en fait, si on considère que ces enseignements ne sont pas simplement à écouter, mais qu'ils sont à mettre en pratique, du coup, c'est très différent. Alors, dans le texte des sermons de Bénarès, on n'a que deux exemples de quelqu'un qui parle, où on a des détails sur la façon dont les personnes parviennent à l'éveil. Il y a les 5 à 7 et il y a Yasa. Donc, pour tous les autres personnages, il nous est simplement dit que le Bouddha leur a enseigné et qu'ils sont parvenus à la libération. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a enseigné. En revanche, pour les 5 à 7 et pour Yasa, on a le détail. Et c'est pour les 5 à 7, c'est un enseignement sur. Bon, je vais le dire avec le vocabulaire que vous connaissez, que je vais remettre en cause. Les 5 agrégats d'attachement ne sont pas. On ne peut pas trouver dans les 5 agrégats d'attachement quoi que ce soit dont on puisse dire ceci est moi, ceci est mien, ceci est mon soi. Donc, c'est le premier grand discours sur le non-soi, mais en même temps, premier discours aussi sur les 5 agrégats, que j'appellerais totalement différemment. Et puis, pour Yasa, on dit que c'est quand pendant qu'il entend le Bouddha enseigner à son père les quatre nobles vérités, lui-même a une pratique sur la terre, Bhumi. Et c'est à l'issue de cette pratique qu'il va connaître l'éveil et la libération. Et je vais essayer de vous montrer, je vais essayer de voir en tout cas, qu'en fait, il y a une corrélation dans la thématique fondamentale entre le discours sur les 5 agrégats et la méditation sur la terre. Ce qui, a priori, à première vue, n'a pas grand-chose à voir. Mais qu'en fait, si on cherche une cohérence justement entre les deux textes, on peut découvrir quelque chose. Et avec c'est pareil, l'atteinte de l'éveil par Sariputta, on va essayer de voir comment dans ces trois textes-là, est-ce qu'il y a quelque chose de commun à ce qui se passe dans l'esprit de ces trois personnages au moment où ils parviennent à l'éveil et par rapport aux enseignements qu'ils ont entendus. Mais ça sera pour un peu plus tard, dans une prochaine séance. Il y a énormément de choses à dire à partir de ces textes-là, hein, parce que ça va après ouvrir, je vous disais, parler de la coproduction conditionnée, le parti des cinq agrégats, qu'est-ce que c'est que la libération et l'éveil, il y a aussi la formule, qu'est-ce qu'elle nous indique, comment le Bouddha se présente, comment il va préparer l'esprit, enfin, il y a encore beaucoup de choses à voir sur ces textes-là. Hein.
Il y aurait une question à poser.
Oui, je vous en prie.
D'après ce que je comprends, l'ouverture de l'œil du Dhamma, ce n'est pas suffisant, puisqu'après, il y a l'engagement,
oui,
à suivre le chemin et suivre la conduite du Bouddha.
Ouais.
Mais par contre, comme la roue, le sens ne peut pas être inversé, est-ce que ça veut dire qu'on va suivre d'une manière ou d'une autre ce chemin, cette conduite ?
C'est ce qui est dit dans la tradition, effectivement.
Et ça demande un effort.
À partir du moment où surgit l'œil du Dhamma, hein, puisque c'est l'expression, c'est pas s'ouvre, mais surgit l'œil du Dhamma,
oui,
la vision de la réalité. À partir du moment où surgit la vision de la réalité, on est assuré d'atteindre l'éveil. Mais il y a des choses à faire encore.
Oui, donc ça demande quand même un effort, il y a quand même un engagement.
Bien sûr, c'est pour ça que dans la formulation de, je reprends le texte, dans la formulation où puissais-je obtenir de me mettre en chemin en compagnie du bienheureux et de suivre la conduite. Et le Bouddha répond, engage-toi selon l'engagement qui correctement met fin à satisfaction. Hein? Donc bien sûr, l'ouverture, ce surgissement de la vision de la réalité n'est pas suffisante pour connaître la libération.
D'accord.
En revanche, elle constitue ce qu'on peut appeler la conversion. Dans le sens où on change de direction. On abandonne le flot du samsara, en tout cas, on va faire tout notre possible, on va s'engager dans les deux sens, on va s'engager dans une voie et on va prendre l'engagement de suivre cette voie qui mène à contre-courant du samsara jusqu'à l'éveil.
C'est-à-dire, on a quand même encore besoin encore de, en fait, de suivre le Bouddha, quoi, en fait, des conseils du Bouddha.
Ce que le texte dit, effectivement, c'est d'accompagner le Bouddha.
Ouais.
Donc, ça aussi, on pourra en reparler. Ça fait des années que j'ai cette idée qu'il y a une différence fondamentale entre le Theravada et les textes du canon Pali et les textes du Mahayana. C'est que, vous savez, un Bouddha dans la tradition théravadine, c'est celui qui ne reçoit pas d'enseignement. Un bodhisattva dans le Mahayana, c'est celui qui reçoit des enseignements. Pour moi, dans le Theravada, un bhikkhu, ce que nous dit ce texte-là, c'est qu'il suffit de l'expérience vécue quand on a bien entendu les quatre nobles vérités pour être autonome dans l'enseignement du Bouddha. On peut s'en passer parce qu'on a fait l'expérience qui est absolument nécessaire. Mais ça n'empêche pas de recevoir des conseils supplémentaires d'un ami de bien. Mais on ne reçoit plus d'enseignement dans le sens où l'essentiel a déjà été fait. On considère que quelqu'un qui a une entrée dans le courant, quoi qu'il se produise, parviendra à l'éveil. Donc, il peut être abandonné par le Bouddha, il peut ne plus jamais entendre l'enseignement du Bouddha. Cette expérience fondamentale de conversion est suffisante pour lui permettre de parvenir à l'éveil, au plus en sept vies. Sept. Mm-hmm. Pas en sept vies, C-E-D-T-E, mais à la fin du célèbre Satipatthana Sutta, on vous dit sept vies, mais pourquoi pas six, pourquoi pas cinq, pourquoi pas sept mois, pourquoi pas sept jours, pourquoi pas sept heures. Et ce qu'on voit dans le texte, justement, du cycle de Bénarès, c'est que l'enseignement sur les quatre nobles vérités a lieu le matin, ensuite il déjeune, Et ensuite, il y a le deuxième enseignement qui va leur permettre d'atteindre la libération. Ou peut-être qu'il s'est écoulé 7 heures entre l'enseignement du matin et l'enseignement de la fin d'après-midi où ils connaissent tous l'éveil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expérience liée à la compréhension des quatre nobles vérités et fondamentalement donc de la coproduction conditionnée qui sont exprimées dans ces quatre nobles vérités, si l'expérience est réelle, cette vision de la réalité est réelle, elle est suffisamment convertissante pour qu'on puisse se passer de tout enseignement ultérieur.
Ce sera peut-être plus long, quoi.
Au plus en 7 vies.
Oui, voilà. Si,
sans... en 7 heures.
Oui. Voilà.
Mais l'essentiel, ce qui s'est produit, l'essentiel, c'est ce qui s'est produit dans votre esprit, pas dans l'esprit de l'auditeur. Ah.
Ah. Oui. Je voudrais poser une question par rapport à ce qui est dit. Moi, je suis novice, hein, mais je pense à la phrase du Bouddha qui dit « ne croyez même pas ce que je dis, expérimentez-le ». Or, d'un côté, il faut quand même avoir entendu ces enseignements pour qu'il y ait eu, j'allais dire, un déclic qui fait qu'on s'engage. Et après, peut-être qu'à ce moment-là, on peut remettre en question même les enseignements qu'on a reçus. Il y a une contradiction, disons, je ne sais pas.
Alors, quand vous vous retrouvez dans ce cas-là, à trouver qu'il y a des contradictions dans les textes, commencez par penser qu'il faut peut-être remettre en cause la traduction.
Oui, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois aujourd'hui.
Et que le texte, ce qu'on fait dire au Bouddha n'est peut-être pas ce qu'il a dit réellement, en tout cas tel que c'est dit dans les textes. Cette expression « ne me croyez pas, même si c'est moi qui le dis, remettez en cause mon enseignement », ce n'est pas exactement ce que le Bouddha dit dans tout l'ensemble du canon. Ce qu'il dit, c'est qu'il ne faut pas seulement le croire sur parole, mais qu'il est indispensable de suivre un enseignement qui soit un enseignement juste, qu'il ne faut pas seulement croire ce qui est rationnel, mais qu'il faut passer l'enseignement au crible du rationnel, et qu'il ne faut pas seulement croire l'expérience, mais qu'il faut aussi se baser sur l'expérience. J'en reparlerai quand j'évoquerai l'introduction au discours des quatre nobles vérités et les deux extrêmes. La solution, quand on a deux choses que l'on choisit, c'est de les prendre et finalement d'en faire une troisième. Voilà, en fait, il y a le Kalama Sutta qui est un texte célèbre, qui est souvent cité aussi, mais souvent tronqué. En fait, le Bouddha, il ne propose pas de faire ou ceci, ou seulement ceci, ou seulement cela, mais de faire ceci et cela. Donc, d'écouter l'enseignement, de l'analyser et de l'expérimenter. Voilà. Donc, mais il ne demande pas, contrairement à ce que vous avez dit, il ne demande pas de ne pas le croire.
Non, mais c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est, voilà.
Mais il faut le croire. Il faut le croire pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir le mettre en pratique et l'expérimenter. Voilà. L'heure avançant, je voudrais savoir s'il y a d'autres personnes qui auraient des questions absolument essentielles ou est-ce qu'on s'arrête à ça pour aujourd'hui? Bon, est-ce que je vous ai donné envie de continuer? Oui.
Oui. Oui, mais c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, mais vous aurez la prochaine fois que j'interviens pour la suite, c'est le 21 mars. On va essayer de faire en sorte que cet enregistrement soit disponible assez rapidement. Et puis, oui, alors je m'excuse parce que l'enseignement précédent que j'ai fait début décembre. J'avais promis à Guillaume de faire quelques corrections sur l'enregistrement et j'ai complètement oublié. Donc, je croyais qu'il allait le mettre et en fait, il attendait que je lui renvoie. Donc, on va vous mettre assez rapidement les deux enseignements, celui du début décembre et celui-là. Ah. Et là, l'idée, en fait, c'est vraiment justement, je me permets de faire un enseignement que je souhaite continue parce que vous aurez toujours accès aux précédents et que tous ceux qui nous rejoindraient ultérieurement pourraient entendre. Et rien ne vous empêchera de les réécouter et de me reposer des questions. De toute façon, je referai référence à ce que je vous ai dit dans cette première séance. Et moi-même, je la réécouterai vraisemblablement avant de faire la séance suivante. Donc, comme ça, vous pourrez… ce que j'ai envie, justement, c'est de faire des liens. Donc, avec tout ce que je pourrais vous dire en permanence, de refaire des liens. Donc, je vous enverrai aussi… Je vais vous envoyer d'ailleurs tout de suite peut-être le texte, puisque je peux là… si vous pouvez tous le récupérer, ça serait bien. Comment je fais? Alors, il faut que j'arrive à savoir envoyer à tout le monde un fichier qui va se trouver sur mon ordinateur. Et comme ça, je vais voir si je peux... Mince, excusez-moi. Bon, écoutez, je vais vous envoyer ça tout à l'heure parce que là, j'arrive pas à le faire. Il faut que... Je vous enverrai le texte que je vous ai montré. D'accord? Voilà. Bien. Mais écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Effectivement, vous avez déjà de quoi bien réfléchir. Il est à 17h27, donc je vous propose 30 minutes